Merci beaucoup, Joao Carasa. On est très contents. Donc, je suis Sara Guindani, je suis directrice scientifique adjointe du Collège d'études mondiales, de la Fondation Maison de Sciences de l'Homme, qui est une fondation, une institution parisienne historique qui travaille à la valorisation des travaux en sciences humaines et sociales. On a déjà ce partenariat avec la Fondation Gulbenkian depuis 4 ans, je pense, si mes souvenirs sont bons, qui a donné vraiment des fruits. Excellent, donc on est très content de continuer cette collaboration aujourd'hui spécialement grâce à la présence d'Edgar Morin. Donc juste deux mots aussi sur la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et sur son collège d'études mondiales, parce qu'il y a aussi des liens qui font en sorte que voilà, la présence et l'accompagnement d'Edgar Morin est vraiment très important pour nous.
Bon, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, vous la connaissez, c'est justement une fondation fondée par Fernand Braudel dans les années 60. Le but, c'était de donner une valorisation internationale et interdisciplinaire à la recherche en sciences humaines et sociales. Et le collège continue cette action, mais peut-être en introduisant aussi un élément nouveau, qui est l'élément, justement, comme l'indique son nom, mondial, d'aller au-delà des méthodologies nationales que nos sciences sociales souvent ont encore. Donc, ce que les recherches de nos chercheurs essaient de faire, c'est vraiment de prendre en compte la dimension locale et la dimension globale, donc au-delà du national, qui est de plus en plus importante aussi pour les anthropologues, les sociologues, les philosophes qui travaillent en ce moment sur les phénomènes contemporains. Donc, quelque part, vous voyez, d'après ce que je vous dis, il y a dans notre tension vers une nouvelle épistémologie, quelque chose aussi de l'ordre de la complexité. Il y a 2 ans, on avait déjà eu l'honneur d'entendre Edgar Morin dans le premier cycle de conférences qu'on avait organisé ensemble, et une des séances était justement consacrée au rapport entre pensée globale et pensée complexe. La pensée globale, dont on parle beaucoup aujourd'hui et que souvent reste quand même assez indéterminée entre une sorte de volonté panoptique des sciences sociales et peut-être d'un autre côté un colonialisme encore très anglophone, au contraire doit être vu comme une pensée complexe pour pouvoir être productive pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire une pensée qui puisse tenir compte des différentes traditions anthropologiques, sociologiques, épistémologiques, et donc ne pas se satisfaire, se sentir au contraire, non pas toujours complète, comme le mot global pourrait le faire comprendre, mais au contraire, comme toujours à la recherche de quelque chose d'autre, quelque chose qui puisse la compléter. Donc quelque chose qui est toujours à la recherche d'une complexité aussi dans son épistémologie. Donc voilà, c'est pour nous vraiment un vrai honneur d'avoir aujourd'hui Edgar Morin avec nous pour 3 conférences. Aujourd'hui en particulier, moi ça me touche personnellement en m'étant consacré aussi aux recherches sur l'art. Aujourd'hui, Edgar Morin revient aussi un peu à ses premières amours, entre guillemets, parce qu'on sait très bien que son premier livre de grand succès, c'était « Le cinéma ou l'homme imaginaire », pour ne pas parler après du petit livre sur les stars aussi, qui a été un grand succès. Et donc, il revient un peu à ses premières amours, je disais, pour nous parler aujourd'hui d'art et esthétique du point de vue d'une anthropologie complexe. Donc, cher Edgar, je vous passe la parole sans plus tarder.
Merci beaucoup. Je vous remercie, Sarah. Obrigado au Centre Gulbenkian. Merci aux personnes qui se sont dérangées. Cette fois-ci, je vais être un peu esclave d'un texte, parce que ça fait des années que je rédige dans le désordre des notes sur des problèmes d'art d'esthétique. Et j'ai voulu maintenant un peu organiser tout ça. Donc j'hésite à me lancer dans l'improvisation. Je préfère avoir quelques repères. Alors, tout d'abord, je dois dire que esthétique, ce n'est pas, j'ai pas du tout l'intention de définir ce que c'est que la beauté, de définir des critères de ce que l'on peut trouver beau ou non, etc. Je pars d'abord du sens même du mot esthésis, du mot grec, qui veut dire sensation, sentiment. Je pars, si vous voulez, de l'esthétique comme émotion ou sentiment qui nous vient de forme, de couleur, de son, mais aussi de récit, de poème, d'idées. Le sentiment est esthétique, est un sentiment de plaisir ou même de bonheur, mais que suscite en nous un spectacle ou une contemplation. Il peut être évidemment suscité par une œuvre d'art, mais aussi par un spectacle naturel, par des objets ou des œuvres dont la destination n'était pas apparemment de faire de l'art ou d'être esthétisé. Par exemple, souvenons-nous que les bracelets, les colliers, les tatouages, les masques des sociétés archaïques ont une finalité principalement magico-religieuse ou même de confirmation identitaire, n'est-ce pas vous ? Mettez des marques sur le visage pour indiquer votre appartenance. Et moi, je crois qu'elles ont une composante esthétique latente, intégrée, mais c'est cette composante esthétique qui n'est pas principale pour ceux qui usent de ces bracelets, de ces tatouages, mais c'est pour nous, modernes, c'est devenu la composante principale. Par exemple, il y a eu l'esthétisation au début du XXe siècle de ce qu'on appelait à l'époque l'art nègre, c'est-à-dire que les masques en général, dont se servaient pour leur cérémonie sacrée les tribus africaines, ces masques ont été retirés de leur contexte, sont devenus des pièces de musée ou de collection et sont devenus totalement esthétisé. Donc la magie ancienne a reflué et s'est réfugiée dans l'esthétique, laquelle conserve une sorte de dimension magique latente qu'exprime parfois notre émerveillement en disant « Ah, c'est magique, c'est magique ». Par exemple, dans les ballets ou dans les spectacles qui conservent encore la trace de leur origine sacrée. Le caractère sacré des fresques et des peintures religieuses chrétiennes du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance s'est lui-même, pour nous modernes, résorbé dans l'esthétique. Mais l'émotion esthétique qu'elle nous donne, contient du sacré comme en suspension dans sa substance. Nous ne croyons plus littéralement au mythe, mais nous y adhérons esthétiquement. Autrement dit, l'esthétique a récupéré des œuvres à finalité religieuse pour sa propre finalité, pour sa propre jouissance, son propre sentiment. Nous sommes donc dans une époque d'esthétisation généralisée et qui allait même faire dire à Apollinaire cette phrase audacieuse « Ah, que la guerre est jolie !» alors qu'elle apparaît surtout comme un ensemble d'horreurs. Et toutefois, il s'est développé aussi une esthétique du guerrier qui combat pour la beauté du combat et non tant pour une cause, que ce qui apparaît du reste dans les premiers romans d'André Malraux. De toute façon, dans les films, la guerre est à la fois effrayante et esthétique. Le cinéma a créé une esthétique de la guerre qui nous donne de grandes émotions, et pas seulement des sentiments d'effroi, d'horreur ou de pitié, mais aussi un sentiment proprement esthétique, un plaisir. Et cette résurrection d'un passé souvent terrible comporte sa dimension esthétique. Alors, évidemment, on peut se demander si l'impression de beauté qui donne une émotion esthétique est humainement universelle. Je crois que oui, mais ce n'est pas un unique type, ni une unique forme de beauté qui suscite ce sentiment esthétique. De même que la culture n'apparaît qu'à travers les différentes cultures, de même que le langage n'apparaît qu'à travers les différents langages, de même la musique s'incarne dans des musiques différentes, eh bien, la beauté n'apparaît que de façon diverse dans des cultures singulières, voire des individus singuliers. Les beautés qui sont reconnues telles relèvent chacune d'une norme culturelle et d'un goût particulier. Pascal l'avait très bien dit, la mode même et les pays règlent ce qu'on appelle beauté. Y a-t-il un canon, un type idéal, une norme commune à toutes les beautés ? Y a-t-il une beauté universelle à l'intérieur des beautés singulières ? Ou bien chaque type de beauté relevant de sa propre culture n'aurait-elle rien de commun avec les autres ? Question que je pose, à laquelle je ne réponds pas. Il y a aussi un au-delà de la beauté au sens classique du terme, où l'émotion esthétique peut surgir d'une sorte d'horreur esthétisée. C'est Jean Baudrillard qui a osé parler de l'esthétique de cet événement terrible et horrible qu'a été la destruction des deux tours de Manhattan. Nous, évidemment, moi je suis de ceux qui a camouflé cette esthétique de cette image incroyable qu'on voyait et qu'on revoyait sur les écrans. Je l'ai camouflé sous l'émotion de l'horreur, mais c'est vrai qu'il y a une esthétique qui a pu apparaître à certains. Et c'est Schlegel qui est le premier à exprimer le poème de la laideur comme problème central dans l'esthétique, notamment dans la littérature moderne. Il a dit « Le laid est la prédominance totale du caractéristique de l'individuel, de l'intéressant, de la recherche insatiable et toujours insatisfaite du neuf, du frappant. » Alors, cela étant dit, abordons ce problème des émotions esthétiques que nous donne des spectacles naturels. Car nous savons bien que le sentiment de la beauté, que l'émotion esthétique n'est pas suscité uniquement par des œuvres d'art. Il nous vient d'un coucher de soleil, d'un paysage, de fleurs, d'un vol d'oiseaux sauvages. La contemplation des ciels, des mers, des fleuves, des montagnes, forêts, nous donne ou peut nous donner des émotions esthétiques très intenses. Comme a dit Emerson, le poète Emerson, chaque homme est assez poète pour être ouvert aux enchantements de la nature. Cette formule est très éclairante, car l'émotion esthétique, bien que non limitée aux œuvres d'art proprement dites, et ni à la poésie, bien sûr. Elle a un caractère poétique et nous allons voir plus loin le lien qu'il y a entre esthétique et poésie quand on donne à la poésie un sens plus ample que celui du poème écrit. Et en attendant, disons que la nature biologique nous procure d'innombrables émotions esthétiques, poétiques, des chants de fleurs, des chants d'oiseaux, des courses de félins, des vols des papillons, parures des animaux, ces montagnes, ces mers, ces ciels, ces fleurs, ces animaux sont beaux pour nous, par nous. Mais c'est, d'ailleurs, c'est ce qu'a Sanfasso dit Santayana. Il dit « Beauty is a pleasure regarded as a quality of thing ». La beauté est un plaisir que l'on croit venir de la qualité des choses. Mais en réalité, et c'est Heinrich Wölfling qui le dit, la beauté est dans l'œil de l'observateur. C'est nous qui voyons de la beauté dans la démarche du chat, les couleurs du papillon, les plumes du paon. Les animaux, les fleurs produisent de la beauté. Seulement pour nous et pas pour eux. C'est une question qu'on peut se poser. N'y a-t-il pas déjà dans le monde vivant, animal, voire végétal, une pré-esthétique comportant en chaque espèce des prédilections pour certaines formes, couleurs? Ces formes et couleurs relèveraient-elles d'une production ou d'une recherche qui serait de caractère esthétique? Alors, les éthologues, c'est-à-dire ceux qui étudient les animaux, le comportement des animaux, tentent à attribuer les parures animales à l'attraction sexuelle. Mais peut-on réduire à ce seul rôle les couleurs, les chants et les parures? Bien entendu, le paon ne peut pas se regarder faire la roue. Il n'a pas de miroir pour ça. Et il ne peut pas voir son plumage. Mais cette roue, produite pour séduire la paon, comporte un luxe, un surplus par rapport à la simple fonction d'attraction sexuelle. On attribue la beauté des fleurs à une exhibition sexuelle et chez certaines, un attrait pour les insectes butineurs. Mais si la fleur a pour fonction de favoriser la reproduction ou d'attirer les insectes, n'y a-t-il pas dans leur apprêt et leur attrait une composante esthétique? Si leur mission est de plaire à l'abeille ou au bourdon, le plaire ne suppose-t-il pas un certain sens esthétique et chez le séducteur et chez le séduit? Attirer, plaire, ne comporte-t-il pas de façon indifférenciée une émergence sinon esthétique, du moins pré-esthétique, et qui serait, et même au sein de la relation sexuelle, n'y a-t-il pas un caractère esthétique indifférencié? Quand nous nous faisons beau ou belle pour séduire, le vouloir séduire explique l'utilisation de la beauté, mais non pas la beauté elle-même. Si des couleurs de pelage, de plumage, de peau peuvent s'expliquer par une finalité de camouflage à l'égard de la proie ou du prédateur, est-ce que cette finalité suffit pour expliquer les raies du zèbre, les taches du léopard, les couleurs de la rara et du toucan? En somme, n'y a-t-il pas une fantaisie pré-esthétique dans la prolifération des couleurs, des formes et des chants que nos rationalisations ne sauraient réduire à la simple utilité? Les couleurs, formes, attitudes ne relèvent pas de ce qu'Adolphe Portman appelait l'auto-présentation, c'est-à-dire ce qu'on peut dire en langage italien, vouloir faire bella figura, pas vouloir être beau, pour soi-même d'abord, peut-être, je ne sais pas. C'est une spéculation, mais de toute façon, elle témoigne, de même que nos arts humains, de l'exubérance de la vie est une invention créatrice. Bergson a justement considéré l'évolution vivante comme une créativité ininterrompue et multiple. La vie a été et est artiste dans sa faculté inventive et créatrice, et l'esthétique semble être incluse de façon, je le répète, indifférenciée, non isolable, dans la créativité. Il y a donc une préhistoire dans le monde animal à l'esthétique et à la beauté humaine. L'esthéticien, le professeur d'esthétique à la Sorbonne, que fut Étienne Souriot, disait « Il y a une continuité en promotion successive entre l'art de la nature, puis l'art de l'animal, et enfin l'art humain », dans son article « L'art chez les animaux ». Moi, je dirais qu'il y a à la fois discontinuité et continuité, dans tout, comme dans tout ce qui est évolutif. Mais alors, maintenant, interrogeons non pas l'esthétique de la nature, mais la nature du sentiment esthétique. En nous mettant en plaisir, émerveillement, il nous met dans un état second que moi j'appellerais poétique, par opposition au prosaïque qui est sans plaisir ni émerveillement. On peut retrouver l'état poétique dans la communion, dans l'amour, dans le jeu, mais ceci dépasse le sentiment esthétique tout en pouvant l'englober. D'où ces mots de l'amour ou dans l'amour. « Oh, que tu es belle !»« Oh, que tu es beau !» Dans le sport, « Oh, le beau goal !» La belle passe. Dans la communion, quel beau moment nous vivons. La fête nous met également en état poétique et esthétique, à la fois en suscitant sa propre ivresse dans les danses et en utilisant les drogues euphorisantes que sont l'alcool, le cannabis, l'ecstasy. Dans l'imaginaire, roman, peinture, film, un sentiment de réalité forte détermine émotion et participation, mais il subsiste toujours une conscience de l'imaginaire et du spectacle. C'est-à-dire, on sait que c'est du cinéma. D'ailleurs, je reviendrai là-dedans, puisque la double conscience, elle est capitale dans la situation esthétique provoquée par les arts, que ce soit la littérature, le théâtre, le cinéma. On vit intensément. On souffre comme les gens qui souffrent, on rit comme les gens qui rient, mais en même temps, on est détaché, on s'y connaît au cinéma. Les œuvres que nous émeuvent en peinture, musique, littérature, théâtre, cinéma, nous mettent au comble de l'émotion dans un état pré-extatique. Si je définis l'extase comme un état de confusion ou de fusion infinie avec ce qui la provoque. Ainsi, par exemple, je me souviens que mon premier ravissement a été d'entendre soudain la symphonie pastorale de Beethoven, et ça a été suivi par un second ravissement qui était le concerto pour violon du même Beethoven. Et pour moi, l'état de transfiguration, l'état de bouleversement, de presque extase, ça a été le premier mouvement de la 9e symphonie du même Beethoven. Alors, voyons l'art, les arts. L'art est produit par la capacité humaine de créer des œuvres, des formes, des couleurs, des sons qui donnent l'émotion ou qui doivent donner l'émotion esthétique. Les artisans et les artistes produisent des objets, des œuvres qui sont inspirés par des conceptions du beau, sur leur conception, et vise à des effets esthétiques, c'est-à-dire susciter l'émotion de beauté. Les beautés de l'art, donc, sont des créations proprement humaines. Mais quand on considère le passé archaïque et historique, nous voyons, et je reprends ce que j'ai dit, que nous avons esthétisé des œuvres et objets à finalité magique, religieuse, identitaire, masque, danse, bracelet, collier, peinture, tatouage. Toutefois, nous n'y avons pas projeté l'esthétique. Celle-ci se trouvait à l'état indifférencié dans la nature magique ou religieuse. Et c'est ça qui est important, je reviendrai. Quand on considère l'humanité archaïque, où dessin et peinture parures, colliers, bijoux ornent les corps, ou dans la préhistoire, des représentations animales impressionnantes de réalisme ornent les grottes, il semble clair que leur caractère esthétique est indifférencié au sein d'un complexe magique ou religieux. De plus, les peintures ou tatouages sur le visage ont une fonction d'affirmation d'une identité, de clan ou de sexe, et leur beauté est indifférenciée dans leur sémantique. Et alors, d'émotions esthétiques inspirées par les œuvres comme celle de Giotto ou de Fra Angelico, pour le croyant, est inséparable de l'émotion religieuse, mais pour nous, la beauté de ces peintures est au sein d'une émotion et d'une ferveur esthétique. Et c'est ainsi que l'art s'est tardivement autonomisé de sa fonction religieuse en Europe occidentale. Après Giotto, c'est le Quattrocento. Et c'est notre conception laïcisée qui isole la beauté, la privilégie, en la débarrassant des croyances religieuses ou politiques. Nous admirons sans foi religieuse Notre-Dame de Paris, l'Évangile selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, les chefs-d'œuvre de l'art sacré, mais avec le fort sentiment de leur beauté architecturale, picturale ou musicale. Nous avons insularisé la beauté, notamment dans la peinture. L'art qui s'isole devient l'art pour l'art, c'est-à-dire pour exprimer de l'émotion esthétique avant toute chose. Mais il maintient dans la beauté un halo de mystère et de magie. Notre civilisation occidentale a longtemps cru que ces canons de beauté étaient universels. En matière de sculpture et de peinture, la beauté grecque illustrée par Praxitèle a été conçue comme le modèle universel de toute beauté. Et c'est en suivant ce modèle que les peintres de la Renaissance, puis du XVIIe, XVIIIe siècle, ont produit leurs œuvres. Nous avons cru universelle la conception classique de la beauté ainsi dégagée, qui comporte harmonie, régularité. Elle peut être naturelle ou sophistiquée. Elle peut commencer à exprimer dans la joliesse, elle peut accéder à splendeur. Elle exclut toute scorie, toute difformité, toute laideur. Dans un sens, l'occidentalisation du monde, effectuée au cours de l'ère planétaire, en diffusant, installant et acclimatant dans les autres continents ses propres productions de beauté, peinture, musique, littérature, a semblé confirmer cette universalité. Mais si l'universalisation de l'esthétique occidentale de beauté fait qu'on admire la Joconde à Tokyo, cette universalisation n'a pas annulé les types proprement japonais de beauté. Et le même processus de planétarisation nous a fait découvrir et reconnaître comme belles des œuvres dont le critère de beauté était très différent. Bien, nous avons laïcisé l'art africain en dépouillant les masques et les statues de leur finalité pour les considérer comme des œuvres d'art, mais en même temps, nous avons reconnu beau ce qui était considéré comme étrange, bizarre, voire laid. Dès le XIXe siècle, la peinture occidentale commençait à transgresser le grand modèle de beauté. Un Goya donnait à voir des visions d'horreur, mais qui relevaient de l'esthétique, indiquant que les frontières entre le beau et le laid pouvaient localement s'effondrer. Puis les impressionnistes, Van Gogh, Cézanne, révélèrent des types de beauté très différents des types classiques, et par la suite, peinture et musique s'employèrent à disloquer les formes et faire apparaître en même temps une nouvelle sensibilité, un nouveau type de beauté. Rimbaud, dans la saison en enfer, dit « Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. La beauté classique va-t-elle disparaître des arts, ou plutôt n'y a-t-il pas, comme dans l'univers religieux préclassique ou comme dans l'univers archaïque, de façon différente, une indifférenciation de la beauté dans des œuvres qui expriment en même temps une vision, une vérité, un message. Ne rester à voir à la fois beauté et laideur, beauté dans la laideur et laideur dans la beauté, ce qui fait que la beauté ne serait pas éliminée, mais incluse dans un complexe qui porterait son contraire. la recherche de l'authenticité, dit-on, prime la recherche de beauté, mais ne t'a-t-elle pas en elle une qualité esthétique? Et puis, dans notre culture, nous devenons éclectiques et revenons parfois à des formes classiques, comme dans le roman, ou parfois nous intégrons des éléments dissonants, mais ceci, comme dans la symphonie classique de Prokofiev, donne du piment au classique. Les avatars de la beauté, voire la crise de la beauté classique, se font au profit d'une esthétisation généralisée de ce qui était auparavant hors du beau. Le beau n'est plus ce qu'il était, mais l'esthétisation de toute chose s'accroît. Rimbaud l'avait annoncé en exprimant son goût pour les baraques foraines. Les surréalistes ont suivi en esthétisant des lieux qui auparavant semblaient prosaïques ou sordides, comme le passage des panoramas à Paris. Ils ont surtout proclamé la nécessité de poétiser la vie dans une esthétisation voulue de l'existence. Ainsi, après avoir esthétisé la nature, nous essayons d'esthétiser nos propres vies, c'est-à-dire de leur donner un sens poétique. Et si nous dépassons dans le sentiment esthétique nos mesquineries, nos égocentrismes, cette esthétique ne suscite-t-elle pas une éthique propre et qui nous ferait comprendre l'appel à la beauté pour sauver le monde que certains le pensent nécessaire de proclamer? Bon, je ne veux pas parler ici de l'esthétisation du monde industriel, des locomotives, des avions, du TGV, et aussi l'esthétique des arts mineurs de l'ère industrielle, comme dans le design, la publicité. Tout ça, c'est quelque chose qui mériterait l'attention, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que, pour reprendre Souriot, Souriot disait « On progresse dans un temps où la différence profane, sacrée, mystérieuse et familier ne serait plus qu'esthétique. L'insularisation progressive de l'art en Occident, qui s'accomplit au XIXe siècle, fait que cette autonomisation par rapport à la religion, puis du pouvoir, puis du mécénat, devient en même temps dépendante du marché et que l'œuvre d'art devient une marchandise. Mais là, c'est d'ailleurs le contraire. Mais la marchandisation est vue comme produit, comme sous-produit trivial d'une œuvre dont l'auteur devient reconnu et exalté comme doté d'un don spécial, le talent et, si possible, le génie. L'artiste est individualisé de plus en plus et s'oppose à la civilisation dont il dépend en exaltant sa liberté, son originalité, sa créativité dans un monde bourgeois de philistins, mais qui quand même lui achète ses œuvres quand il s'agit de peinture. Le sens du mot « œuvre immortelle » est bien entendu, alors qu'elle est mortelle, signifie qu'elle se lance dans une lutte contre la mort normale des individus pour durer un peu au-delà. De plus, l'auteur s'individualise à l'extrême en créant le matériau de l'œuvre, à la différence de Molière, de Racine, de La Fontaine, qui puisaient leurs matériaux chez des Grecs, chez des auteurs anciens. L'auteur moderne crée son propre matériau, il fait tout lui-même, et s'il emploie des nègres, il les dissimule, comme vous le savez. L'originalité et l'authenticité le distinguent de tout autre, et le droit d'auteur consacre sa souveraineté. Trop original ou déviant par rapport aux normes esthétiques de son temps, l'artiste est maudit, puis devient reconnu, officialisé, et il a son nom. Ton nom va se trouver doté une rue de la ville où il est né. Donc, voilà, on passe de l'artiste maudit à l'artiste réputé et peut-être à l'artiste officiel. Cela étant dit, ce sont des préliminaires pour aborder le point central pour moi, qui est celui de la création artistique. On a longtemps parlé d'inspiration, puis alors ce terme a été un peu ennuyeux, on l'a abandonné. On parle de génie, mais c'est faire une sorte de constat qui n'explique rien. Eh bien, moi, je vais partir des peintures rupestres, préhistoriques, par exemple la grotte Chauvet ou de Lascaux. Ce sont des reproductions étonnantes de ressemblances d'animaux, mammouths, chevaux, félins. Et on essaye de comprendre leurs fonctions dans des rites propices à la chasse. Mais on s'est interrogé sur ces artistes préhistoriques et certains ont pensé qu'ils étaient des chamans. Ah, qu'est-ce que le chamanisme ? C'est ça qui est intéressant. Parce que son caractère est universel dans toutes les sociétés archaïques de Sibérie, de l'Amérique ou d'Asie, et même chez ceux qu'en Europe on appelait des sorciers ou des devins. Donc, les chamans étaient certainement présents dans les sociétés préhistoriques d'Homo sapiens. Les chamans se mettent en état de transe, et cette transe est facilitée par des breuvages hallucinatoires. Et grâce à cet état de transe, ils communiquent avec les esprits qui gouvernent la nature, ou même parfois directement le monde végétal ou animal. Vous savez que c'est Jeremy Nerby qui a fait l'hypothèse que finalement les chamans peuvent communiquer à travers le seul langage universel qui se trouve chez les humains, chez les plantes, chez les animaux, chez les vers de terre, chez tous les êtres vivants, c'est-à-dire l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui contient évidemment la connaissance héréditaire. Enfin, de toute façon, ces chamans furent sans doute des éducateurs de l'humanité ancienne. Car, si vous réfléchissez un petit peu, en pensant à la végétation luxuriante et abondante d'Amazonie, ce n'est pas le hasard qui peut faire déterminer quelles sont les plantes vénéneuses, les plantes comestibles, les plantes bénéfiques. Il y en a trop pour qu'on puisse, au hasard, finalement, faire le tri. Alors, je vais vous donner un autre exemple, encore non moins intéressant. Des anthropologues avaient relevé que chez les Indiens Pueblos du Mexique, qui se nourrissaient exclusivement de maïs, chaque village avait sa façon propre de cuire le maïs. Les uns avec l'écorce d'arbre, les autres avec du calcaire, les autres avec d'autres produits. Et en général, les anthropologues liaient ceci à des croyances magiques. Jusqu'à ce qu'arrivent des bio-anthropologues qui ont fait des analyses biologiques et qui ont démontré que si le maïs était cuit sans aucun de ses ingrédients annexes, l'organisme était incapable d'intégrer la lysine, qui est l'élément nutritif du maïs, et donc cette population serait morte de faim. Donc il a fallu, dans chaque village, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui puisse, ou quelques-uns, qui puissent indiquer, savoir le mode qui pouvait rendre nutritif le maïs, c'est-à-dire, à mon avis, les chamans. Les chamans, donc, ont joué ce rôle extraordinaire de l'éducateur d'humanité. Et je pense que là-dessus, on peut retourner aux fresques. Alors, est-ce que ce sont des chamans ou des artistes qui ont fait ces fresques ? Ma réponse est chamans et artistes, artistes parce que chamans. Pourquoi ? Parce que par la possibilité mimétique de faire ressemblance des animaux sans voir leur modèle, car ce n'est pas comme des peintres qui ont posé un mammouth, non, sans voir leur modèle, mais à partir de représentation mentale, et cela non pas en état de transe, mais d'une sorte d'état que j'appellerais de demi-transe, d'un état second, où collaborent le conscient et l'inconscient. Alors, je dirais, dans un sens, tous les artistes peintres sont des descendants des chamans, mais non pas chamans eux-mêmes, mais ont ce don de pouvoir collaborer en état de transe, cette sorte d'inspiration, et en même temps la régulation, la correction que donne la confiance. Autrement dit, la perfection mimétique vient de cette mimésis, voie de connaissance analogique, et qui donne au chaman le don de reproduire admirablement un animal par identification psychique, ou je dirais même par possession psychique, c'est-à-dire un état second, voisin de la transe, avec accompagné un contrôle conscient. Bien entendu, pour parler du chamanisme, il y a des gradations entre transe, possession, extase, mais on a souvent négligé l'état de demi-possession ou demi-transe. C'est Michel Léris qui, d'ailleurs je reviendrai, a parlé d'un état de demi-possession dans une troupe de comédiens qui lui-même jouait une pièce à fonction magique ou religieuse dans l'Éthiopie. Mais alors, à ce moment-là, on peut parler que la demi-transe est l'état de l'artiste, ce qui lui permet d'utiliser les forces rationnelles et conscientes de son être. Alors, j'ai pensé à mon expérience. Je ne me prétends pas un artiste, mais quand j'étais jeune et pendant assez longtemps, j'adorais faire des caricatures de mes professeurs ou de mes camarades que je connaissais, et puis ma compagne. Et ces caricatures étaient très ressemblantes. Or, je les faisais de tête. C'est-à-dire, si je regardais mon modèle, si je regardais son front, son nez, ses yeux, je ratais la ressemblance. Et si je laissais faire en demi-conscience les mains, ma main, je réussissais la ressemblance. Et je dirais que cette mimésis, si vous voulez, m'entraîner dans un autre domaine qui n'est pas la peinture, mais c'est pour en parler. J'imitais beaucoup la voix de certaines personnes, et notamment de mon professeur, de maître George Friedman. J'adorais l'imiter sans arrêt. J'étais même possédé. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand je n'imitais pas seulement sa voix, mais c'est qu'on prenait sa voix, j'étais à l'intérieur de lui, de ses sentiments, je pensais comme lui. Je m'identifiais comme un comédien s'identifie à un personnage qu'il doit jouer, mais ça, ce personnage était réel. Et donc, cette petite expérience que je ne prétends pas artistique, mais m'a montré que le rôle de cette mimésis psychique et de cet état second, je t'appelle ça un état second, peut être important. Voilà. Toute création artistique comporte une coopération variable entre un état second d'inspiration, sorte de transe atténuée, ou demi-transe, et l'état conscient. Et d'ailleurs, Victor Serge, qui était aussi un grand romancier, Victor Serge l'a noté dans ses carnets, l'œuvre d'art, je cite Serge, l'œuvre d'art est une œuvre de volonté lucide et de transe. Et moi, je crois que là-dessus, effectivement, nous arrivons à quelque chose qui va jouer aussi, pas seulement pour la peinture, qui va jouer pour le roman, qui va jouer pour la musique, qui va jouer pour tous les arts. Alors, bon, je pense, je prends le roman. Le roman, là aussi, vous avez comme en peinture, comme au cinéma, vous avez deux voix. Vous avez la voix que l'on peut considérer comme réaliste, qui essaye de dédoubler la réalité, de donner une peinture de la réalité, de ressembler à la réalité, le réalisme, le naturalisme, et d'autre part, le déploiement de l'imagination et de l'imagaire. Mais ce que je dois dire, et ça je l'ai, c'est une idée que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, aussi bien dans mon livre sur la mort que sur le cinéma, c'est que la photo, le reflet de la réalité, tout reflet de la réalité, ne serait-ce que le miroir, porte en lui un je ne sais quoi, c'est-à-dire qui est d'une façon larvée la magie du dédoublement, du double. Dans l'humanité archaïque, chacun est accompagné de son double qui se vérifie dans l'ombre, dans le reflet et à la mort, tandis que le corps se décompose, c'est le spectre immatériel qui se détache et qui va continuer à vivre. Et le thème du double, du reflet, du miroir va se retrouver dans les arts très souvent, et notamment dans les arts romantiques. Et ce que je peux dire, c'est que il y a toujours plus dans le doublement d'une réalité par reflet, par photo, par image, il y a toujours quelque chose de plus que le réel. Il y a une magie latente. Et donc, cette magie latente va aider aussi le lecteur à entrer dans le domaine du roman. Alors, donc, par ailleurs, on peut dire que tout roman réaliste, et surtout tout grand roman, si je pense à Dickens, à Balzac, à Zola, à Proust, tout ça, est une œuvre de connaissance anthroposociologique. Pourquoi elle est anthroposociologique ? Parce qu'on voit des êtres humains dans leur société, dans leur histoire, dans leurs relations, mais on les voit aussi et surtout dans leur subjectivité. Alors que les sciences humaines, les sciences de l'homme, n'arrivent pas à saisir l'être subjectif de l'humain, le roman, ne serait-ce qu'avec le monologue intérieur à la Faulkner ou de toute autre façon, lui se met à l'intérieur des sujets humains. Et donc, il y a cette sorte de richesse cognitive qui dépasse les sciences dans le grand roman. Et en plus, le romancier invente un monde avec une société, des personnages, des événements. Et ce monde, il surgit de son esprit comme un ectoplasme. Il se consolide, il se met à l'extérieur de lui. Ainsi, par exemple, l'esprit de Balzac a recréé toute une société grouillante de personnages et d'événements, mixte de réel et d'imaginaire, et où l'imaginaire est au service de sa résurrection, de cette société réelle. Et alors, il y a un phénomène dont parlent souvent des romanciers. Ils disent « Oh, mes personnages m'échappent, mes personnages deviennent autonomes. » C'est incontestable. Les personnages qui vivent deviennent semi-autonomes. Et parfois, ils dictent leur conduite à l'écrivain. C'est une expérience fréquente. Et je dirais que l'œuvre n'est pas seulement le produit de l'artiste, du romancier. L'œuvre est aussi, elle s'auto-produit à peu près comme l'enfant, l'embryon, s'auto-produit dans le ventre de la mère. Parce que la mère, elle nourrit l'embryon, elle est nécessaire à l'embryon pendant de stade des 9 mois où il va rester à l'intérieur d'elle-même, mais c'est lui, avec ses forces propres, avec ses gènes, qui va se développer. Et dans toute œuvre, il y a un pouvoir auto-créateur qui, évidemment, se nourrit de l'écrivain, mais qui est aussi, ou l'œuvre est, disons, aussi son propre auteur. Et alors, donc, voici comment tout ceci fait que les romans foisonnent de vie et en quelque sorte, cet état second qui perd. D'ailleurs, parfois stimulé par le café, comme chez Balzac, par la cocaïne, chez d'autres. Enfin, mais c'est cet état second qui, effectivement, toujours avec le contrôle, c'est-à-dire le contrôle de la conscience qui, elle, rature, supprime, rajoute, mais qui n'est pas l'élan inspirateur même, qui vient de l'état second créateur. D'où alors le décalage fréquent entre la personne de l'auteur et son œuvre. L'œuvre les dépasse, même s'ils sont conscients de leur génie. Je dirais que l'œuvre de Chateaubriand dépasse la personne de Chateaubriand. L'œuvre de Céline dépasse énormément la personne de Céline, etc. Et même, l'auteur peut se tromper sur le sens de son œuvre. Balzac croyait que sa comédie humaine permettait d'éclairer les lecteurs. Enfin, c'était une œuvre qu'il écrivait, en pensant-il, sous les deux flambeaux de la royauté, de la monarchie et de la religion, alors que Marx a bien vu qu'elle était avant tout une critique féroce de la société bourgeoise. Donc, l'auteur n'est pas nécessairement conscient de ce que contient son œuvre. Justement, il n'est pas nécessairement conscient parce que celle-ci vient un peu de cet état second qui dépasse sa conscience littéralement. Autrement dit, l'écrivain est en fait un demi-chaman. Il est à demi possédé par son œuvre et percé ses personnages, et ce qu'il donne à voir est visionnaire. Alors, arrivé ici, étant donné qu'une heure s'est accomplie, je m'interromps, et si vous le voulez bien, la deuxième partie de cette conférence aura lieu la prochaine fois. De façon, voilà. Bien entendu, vous pouvez me poser quelques questions. Je suis à votre disposition. Non, voilà combien ? Un petit quart d'heure ?
Oui, je pense une bonne vingtaine de minutes pour discuter avec la salle. Merci beaucoup, Edgar, pour non seulement nous avoir accompagnés dans tant de beauté, mais l'avoir aussi incarné aussi, en partageant aussi ces souvenirs de possession, quelque part. Donc, c'était vraiment aussi, voilà, une sorte de parole performative que vous nous avez donnée. C'était vraiment très riche. Donc, je passe la parole à la salle. On a encore une vingtaine de minutes pour continuer, prolonger ces réflexions. C'était... Oui, Monique.
Je crois me souvenir que vous avez, il y a déjà assez longtemps, que vous avez eu envie d'écrire de la fiction, d'écrire des romans vous-même, ou d'écrire des poèmes vous-même, ou aussi d'écrire des scénarios de films vous-même. Donc, la question est toute simple. Cette expérience-là, est-ce que... quel souvenir vous en gardez et quelle est la tension que vous y portez ?
Oui, c'est vrai. Bon, tout d'abord... J'ai écrit des poèmes et dans le fond c'est par accident que j'ai cessé de faire des poèmes. C'est un événement qui m'a brusquement inhibé. Et j'ai arrêté. Mais j'ai tout à fait... Maintenant, je vois très bien que, là aussi, rétrospectivement, une fois que je suis éclairé par ma conception post-chamanique, je vois très bien que j'étais moi-même dans un état second, et que sans cet état second, on ne peut pas écrire le poème. Et alors, en ce qui concerne le roman, il est vrai que c'est en 1947 ou 48, c'est-à-dire il y a très longtemps, il y a donc plus de 60 ans, que j'ai écrit un roman que j'ai cru perdu au cours d'un déménagement parce que quelques caisses avaient disparu, mais dont des fragments brouillons ont été retrouvés à l'IMEC, c'est-à-dire cet institut qui garde les archives des auteurs comme moi. Et ce roman qui s'appelle « L'année a perdu son printemps », quand je l'ai lu, quand je l'ai cru perdu, ça ne m'a pas affecté parce que j'étais sûr que ce n'était pas intéressant, que ce n'était pas bien du tout, que pour être romancier, il faut être génial ou rien du tout. Donc je n'avais aucun regret de la perte de ce roman. Mais quand j'ai vu les fragments, je me suis dit, mais tiens, mais c'est pas mal du tout. Et j'ai vu que j'ai écrit dans un état particulier que je ne pourrais pas retrouver. Donc c'est... Tout ça, c'est... je veux dire que... En réalité... d'ailleurs, je dois dire que moi-même, quand j'écris un livre qui s'appelle « La méthode », j'éprouve un plaisir à l'écriture elle-même. Je cherchais mes formules. Et là aussi, j'ai écrit ce livre en état de demi-possession. Je m'étais réfugié dans la Toscane maritime, dans un château isolé sur le village de Bolgheri, Castigliangelo de Bolgheri. Et je m'étais mis à travailler sans arrêt, du matin jusqu'au soir, parfois faisant à Maury une petite promenade. J'étais entièrement, avec bien entendu la stimulation d'un paysage merveilleux et d'une présence aimée qui venait me voir de temps en temps. Bref, j'ai pu quand même écrire véritablement dans un état second. Et donc, si vous voulez, pour moi, parler de ceci, c'est une expérience. Maintenant, ce que je crois qu'est l'idée que j'annonce, que j'apporte ici, c'est de voir dans tout ceci, non pas des sous-produits du chamanisme, mais des héritages atténués du chamanisme, lequel a porté jusqu'à l'exaltation, jusqu'à l'extrême, avec l'aide de substances hallucinogènes, très souvent, parce qu'avec cette aide-là, il a porté à l'extrême une façon d'entrer dans l'invisible, dans le monde autre, appelons ça le monde des esprits, dans un autre monde. Mais je pense que si on enlève les drogues hallucinogènes, alors il y a ces états de possession, et que nous... Alors, je reviendrai après, parce que ce sont des états qui communiquent, le mot « trans », le mot « possession ». Alors, le mot « possession », là aussi, je l'ai vécu d'une certaine façon, parce que j'ai été initié au coin d'Omblée, à Fortaleza, au Brésil, c'est-à-dire ce rite cette sorte de religion annexe, qui s'était plus ou moins annexée au christianisme. C'est-à-dire la première partie de la cérémonie est une messe presque normale, et dans la deuxième partie, on appelle les orishas, c'est-à-dire les génies, les dieux qui vont s'incarner. Et alors, on danse, on chante, et des orishas arrivent, et un orisha s'incarne. C'est-à-dire une personne qui danse est possédée, ce n'est plus sa voix, elle parle par la voix de l'orisha. Autrement dit, ce phénomène de possession m'a semblé un cas extrême de choses beaucoup plus banales et normales et réelles. Autrement dit, pour moi, les états de... les enchantements que nous avons même devant la nature, un beau coucher de soleil, nous met déjà dans un état poétique, qui est déjà un prélude, un état second, lequel peut lui-même, en se développant, être un état d'exaltation, voire nous conduire aux frontières de l'extase. Donc, et moi, je crois que, dans le fond, pour nous, le plus important dans la vie, c'est justement ce que je regroupe sous le... alors que j'englobe sous le nom de l'état poétique, c'est-à-dire qui dépasse l'esthétique, comme je dis, puisque ça peut être dans... je peux le ressentir à un match de football, je peux le ressentir dans l'amour, je peux le ressentir dans différentes occasions, mais il est donné éminemment par les émotions esthétiques. Et c'est cet état poétique qui est le plus important de la vie. Et je pense que il est un, et cet état intermédiaire est invisible parce que justement on est habitué à se croire tout le temps normal et on oublie qu'on n'est pas le même. Ben, même déjà si on est en colère, on est autre, mais si on est dans l'émerveillement, on est autre. Et dans le fond, c'est un peu ça que j'ai voulu voir. Et d'ailleurs, dans la deuxième et dernière conférence, j'essaierai de montrer le lien qu'il y a entre trans, possession, poésie, état second, etc. Montrer cette sorte de constellation où il n'y a pas que l'esthétique seulement, mais où elle est toujours présente. C'est un peu ça que je voulais montrer. Et que l'art, quand on parle de création d'art, faut pas s'hypnotiser, se réduire au mot créateur. Oui, ce sont des créateurs. Mais comment crée-t-il? Pourquoi crée-t-il? Si on oublie qu'il y a cette sorte d'inspiration qui vient du plus profond d'eux-mêmes et qui est en deçà et au-delà de leur conscience lucide, on oublie le plus important. Et c'est cela que je voulais mettre dans un cadre anthropologique. Voilà un peu mon idée.
Oui, Nelson.
Dans certains de vos recherches, vous dites souvent que cet état poétique, nous le découvrons à l'adolescence, ou qu'il y a quelque chose à voir avec l'adolescence et la possibilité de cet état poétique. Car nous pouvons faire les uns et les autres le constat avec le temps, en vieillissant, ce qui n'est pas votre cas, car vous êtes le plus jeune d'entre nous, que, eh bien, il nous est de plus en plus difficile d'accéder à ces états poétiques, et que tout un tas de choses sont venues se poser, peut-être en structurant ce qu'on pourrait appeler une personne adulte, ou et qui est fait aussi de beaucoup d'oubli et beaucoup de strates qui bouchent la possibilité d'accéder à ces états. Peut-être la peur y est pour beaucoup, la crainte la crainte d'accéder à ce tremblement, de ne pas y sortir ou de se garer. Voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît.
Oui, merci. Moi, je crois qu'effectivement, si on prend l'adolescence, pas seulement au sens biologique, mais au sens aussi sociologique, c'est-à-dire elle commence à un moment où on sort du cocon familial, et elle peut se terminer peut-être à 27 ans, c'est-à-dire quand qu'on quitte les études, qu'on prend une profession, ou que l'on se marie, ou qu'on a un enfant. C'est-à-dire que, disons, c'est entre la protection de l'enfance et l'intégration dans le monde adulte. Et je crois que c'est l'âge où ferment des aspirations à une autre vie, pas celle justement où la vie intégrée dans le monde adulte, qui semble une vie adultérée, semble une vie à qui il manque une dimension, et à la recherche d'une autre vie plus libre et plus communautaire à la fois. On veut à la fois se réaliser individuellement, mais on veut toujours... D'ailleurs, c'est ça qui m'avait frappé quand j'ai vu le surgissement de la contre-culture en Californie dans les années 60 et quelques, où on voyait toute une jeunesse qui recherchait cette autre vie et où, dans le fond, le rôle des grands concerts rock, pas seulement en salle, mais dans la nature, dans les parcs, jouait un rôle de communion extraordinaire. Oui, je pense que c'est les aspirations humaines les plus fermentent et les révoltes aussi dans l'âge de l'adolescence. Et puis souvent, elles vont s'éteindre dans l'intégration à la vie adulte. Et donc, j'ai voulu faire, d'ailleurs je ne l'ai jamais fait, mais je rêvais de faire il y a très longtemps un petit livre sur Rimbaud qui se serait appelé Les secrets de l'adolescence. Ça m'était venu parce que j'avais lu un très beau livre de Hans Carossa, écrivain allemand, qui s'appelait Les secrets de la maturité. Et je pense que le fait que chaque âge a ses secrets, et que Rimbaud avait exprimé d'une façon extraordinaire ses aspirations et cette révolte.
D'autres questions ? Peut-être si je peux profiter aussi de mon rôle ici de modératrice, j'aimerais vous poser une question par rapport à cette figure de l'artiste chaman, parce que le chaman, quand même, il a une fonction de cohésion sociale très importante, de créer, de faire la société, donc une fonction sociopolitique aussi, quelque part, dans d'autres sociétés. Donc, je vais à ma question. Est-ce que vous reconnaissez, donc de manière anti-platonique, cette fonction sociopolitique aussi à l'artiste? On sait que chez Platon et souvent chez les philosophes, au contraire, la possession, c'est ce qui, qui éloigne l'artiste de la police, de la cité. Est-ce que, au contraire, pour vous, cette capacité de se faire chaman de l'artiste, c'est quelque chose qui lui confère une valence sociopolitique?
Okay. Moi, ce qui me frappe, qu'à un certain moment, certains artistes se sentent en état, je dirais presque de prophétie sociale, donc, je dirais, Hugo vieillissant se chamanise. Il devient quelqu'un, si vous voulez, qui, à travers sa poésie, son œuvre, exprime un message pour toute la société. Il parle de la commune, il parle de la République, enfin, il joue un rôle politique. C'est-à-dire que moi, je pense que à un moment donné, il y a peut-être un sens d'une mission qui peut surgir brusquement et donner un sens post-chamanique, bien entendu. Je pense au cas d'Émile Zola. Émile Zola était un écrivain basta. Il faisait des romans extraordinaires, mais pas. Or, à un moment donné, il a été saisi par l'affaire Dreyfus et il s'est transformé en intellectuel, c'est-à-dire en quelqu'un qui, au-delà de son rôle d'écrivain, essaye de jouer un rôle d'indicateur de vérité, de justice. Mais cela étant dit, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup d'artistes, d'écrivains qui pensent qu'ils ont un message social aussi à dire, que l'art n'est pas seulement consacré au plaisir esthétique, mais doit jouer un rôle dans la société. Mais il y a quand même une grande différenciation entre la spécialisation du travail, du politique et l'artiste. Donc, je pense que, disons, dans les sociétés archaïques, c'est vrai que le chaman était une des grandes figures sociales. C'était pas le chef, parce qu'il y avait souvent la division entre le chef de guerre, le chaman, les différents. Mais ça, ce rôle, ce prestige, ce pouvoir a diminué, en même temps même qu'il n'y a plus de chaman qui en a ce genre de grand pouvoir. C'est fini.
Dernière question, peut-être. Il y avait une main tout à l'heure.
Dans les objets artistiques proches de nous, on repère assez facilement les défauts, la médiocrité. Alors, bien entendu, la médiocrité, c'est la façon dont les critiques conservateurs rejettent ce qui est transgressif à un moment donné. Mais c'est pas que ça, à coup sûr, parce que quant à nous, on n'est pas obtus comme ces conservateurs. Il y a quelque chose en plus. Et si on revient aux peintures, enfin à l'art rupestre, est-ce qu'on a repéré, est-ce qu'on a des choses mal foutues, médiocres, ou est-ce que nécessairement l'art préhistorique est admirable? Est-ce que ça donne à penser quelque chose, ce truc-là?
Vous savez, là, aujourd'hui. Quelque chose, un phénomène énorme de standardisation qui joue dans tous les domaines, comme disait Castoriadis, de montée d'insignifiance, et tout ceci, évidemment, ce sont des grands obstacles à l'épanouissement personnel, comme à l'épanouissement de la poésie de la vie. Mais les résistances existent et je crois que plus on est dominé par des forces anonymes, plus on a envie de résister. Enfin, c'est ce que j'espère, du moins.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être on a encore 5 minutes si Monsieur Carassa nous confirme. Oui, il y a une question au fond.
Vous avez évoqué tout à l'heure le rapport entre l'auteur et son œuvre avec cet état justement de demi-transe. En revanche, qu'en est-il du rapport entre le lecteur et l'œuvre? Ou alors entre le spectateur et une œuvre d'art, par exemple? Est-il capable de ressentir cet état poétique? Est-ce que l'état poétique est un état qui est partagé?
C'est certain, il y a ces œuvres-là nous mettent dans un état d'enchantement, d'exaltation, de possession. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Parce que dans le fond, le lecteur, entrant dans l'œuvre, celle-ci entre en lui et le possède. comme dans le fond, le créateur était possédé, mais d'une autre façon. C'est vrai que dans le fond, mais c'est-à-dire que souvent l'auteur fait son œuvre avec beaucoup de souffrance et parfois de la joie, enfin un mélange comme pour l'enfantement, n'est-ce pas? Je crois que c'est Victor Serge aussi qui faisait part de l'état de création est un mélange de souffrance et de bonheur. Pour le lecteur, c'est beaucoup plus l'enchantement et le plaisir. D'ailleurs, je reviendrai la prochaine fois sur une des choses essentielles, qui est que les œuvres qui traduisent une très grande douleur ou tristesse, tout en nous donnant, transmettons cette douleur, nous donne en même temps un grand bonheur. Alors, écoutez, je vais donner tout de suite une citation de Leopardi, que vous connaissez sans doute. Il dit « Les œuvres de génie ont le pouvoir de représenter crûment le néant des choses, de faire ressentir l'inévitable malheur de la vie, d'exprimer les terribles désespoirs et d'être néanmoins une consolation pour une âme supérieure. » Il dit « En évoquant et représentant la mort, elles rendent momentanément à l'âme cette vie perdue. » Et il dit aussi « Ce que l'âme contemple de la réalité l'afflige et mais le fait de contempler les œuvres de génie qui imitent ou évoquent cette réalité le réjouissent et lui redonnent vie. C'est-à-dire comment nous pouvons... moi, je pense à une œuvre aussi, une des plus douloureuses que je connaisse, qui est le deuxième mouvement du quintet de Schubert, où il exprime vraiment un chagrin, une douleur. Eh bien, comment nous pouvons avoir le sentiment de ce malheur, le partager avec lui, tout en ayant le bonheur d'une œuvre sublime? C'est ça là, aussi, cette complexité des grandes œuvres. Et d'ailleurs, pourquoi nous consommons tellement la mort dans les tragédies, dans les films, etc. Il y a ça aussi. Enfin, il faut que j'en garde pour la prochaine fois.
Donc, l'expectative est là. Hein. On a créé l'attente. Donc, il ne me reste qu'encore une fois à remercier grandement Edgar Morin pour sa générosité et cette très, très belle conférence. Donc, la prochaine conférence aura lieu le 13 mai. Vous avez le programme complet juste avant de sortir de la salle. Et si vous le souhaitez, il y a aussi des ouvrages disponibles à l'achat, et notamment le dernier cycle de conférences d'Edgar Morin, Pensée globale. Merci beaucoup et au 13 mai.